Jusqu'au 31 mai avec Audi Now, repartez sans attendre au volant de l'Audi dont vous avez toujours rêvé. Profitez notamment de l'Audi A1 Sportback à partir de 290€ par mois avec apport. Rendez-vous chez votre partenaire Audi.
Offre location longue durée valable du 21 au 31 mai 2024 pour une Audi A1 Sportback 25 TFSI Advanced. Premier loyer de 3 000€ suivi de 36 loyers de 290€ réservés aux particuliers sur 30 000 km dans le réseau participant sur une sélection de modèles disponibles en stock. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Conditions sur Audi.fr. Now signifie maintenant.
Pensez à covoiturer.
Tout pour investir. Investir autrement.
Investir autrement dans les objets d'art, les objets qui sont le fruit du travail de l'être humain, c'est ce dont nous allons parler pendant quelques minutes avec vous, Grégoire de Toury. Bonjour.
Bonjour Lorraine.
Vous êtes expert en mobilier et objets d'art de la maison Agut. Vous n'êtes pas venu les mains vides, vous êtes venu avec une clé. On va commencer cette séquence en décrivant cette clé. Clé de Tarare. Pour ceux qui nous écoutent à la radio aussi, parlez-nous de cette clé.
Regardez cette clé, c'est une clé extraordinaire. Vous avez vu son format, déjà c'est un objet qui est absolument remarquable par sa taille. Évidemment techniquement il est aussi remarquable, vous avez du bronze ici, c'est très joli, une belle figure de Silène qui repose sur une outre de vin. Et ici ce qu'on appelle le paneton qui est en fer forgé. Alors cette clé c'est une clé qui date de l'Antiquité, elle a plus de 2000 ans et elle a été retrouvée près de Lyon dans la ville de Tarare, dans une vigne où des ouvriers travaillaient évidemment la terre. Et c'est à cette occasion que cette superbe clé a été donc considérée comme la plus belle clé de toute l'Antiquité.
C'est une très grosse clé, dire ça comme ça.
Absolument.
Elle fait quoi, 20 cm?
Oui, c'est ça, exactement. Vous voyez, voilà, avec ces deux parties très distinctes. Et c'est un objet d'art majeur qui a été trouvé chez une de nos clientes qui s'est posé la question de sa valeur. Alors évidemment, lorsqu'il s'agit d'expertiser un objet d'art, il y a différents critères qui interviennent. On apprécie évidemment le savoir-faire technique qui a été employé. Vous voyez ici ces métaux dont j'ai parlé. Vous avez le bronze en haut et vous avez le fer forgé en partie basse. On voit que c'est un travail élaboré, donc on suppose une importance. Ensuite, il y a la question de la provenance. Et à travers différents travaux de documentation, cette provenance a été établie comme étant une clé qui était tout à fait documentée au 19e siècle. Elle a même figuré lors de l'exposition universelle de 1867. Et elle était alors décrite comme la plus belle clé de l'Antiquité. Celles qu'on a dans nos musées ne peuvent pas rivaliser avec celle-ci, mais même dans le monde entier. Vraiment, c'est la plus belle.
On parle d'un objet qui a traversé non seulement les années, mais les siècles, puisqu'elle date de l'Antiquité. Cette question au quotidien de la provenance et de l'authenticité des objets d'art que des gens trouvent par hasard dans leurs héritages ou dans leur famille. Elle se pose souvent chez vous ?
Systématiquement. Apprécier un titre financier qui est l'objet d'art passe par de multiples étapes qui sont notamment l'identification de ce qu'est l'objet en soi sur le plan technique, le situer aussi dans le contexte historique, à quoi ça sert, comment c'est fait. Et bien entendu, cette question de la provenance est déterminante pour valoriser un objet. On a toujours une fourchette d'estimation qui est donnée. Par exemple, cette clé sera proposée aux enchères prochainement avec une estimation de 4 à 6 000 euros. Cette fourchette-là est une valorisation qui doit être posée systématiquement sur tous les objets qui passent en vente publique. Et pour cela, la question de la provenance est absolument déterminante. Parce qu'évidemment, une clé qui aura été fabriquée pour un grand prince n'est pas la même chose qu'une clé qui a été fabriquée pour vous ou pour moi, hélas.
On sait pour qui était destinée cette clé ?
Non.
Qui elle était destinée ?
Malheureusement, on ne sait pas, mais on peut évidemment supposer une importance absolument prestigieuse, parce que ce n'est pas le commun des mortels qui bénéficie déjà d'une serrure comme celle-ci.
De cette taille-là, ouais.
On imagine une villa gallo-romaine au milieu des champs, et c'est donc certainement... Mais là, c'est une supposition. C'est quelqu'un d'important, mais c'est certainement un général romain en retraite qui s'est retiré, évidemment, sur les terres gauloises pour y vivre de paisibles heures.
Grégoire, vous êtes expert en objets d'art. Qu'est-ce qui vous a amené à ces objets d'art ?
Je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. J'ai eu cette chance extraordinaire d'avoir été entouré de beaux objets sur lesquels personne n'était vraiment capable de me renseigner précisément. Je suis allé chercher les informations par moi-même. Et cette démarche systématique de l'enquête a suscité chez moi ce besoin d'aller chercher l'information exacte et d'aller renseigner surtout tous ceux qui en ont besoin.
C'est cette envie d'enquête qui anime aussi ceux et celles qui viennent participer aux enchères et qui viennent pour acquérir des objets comme cela.
Exactement. En fait, ce qui est assez formidable dans ce métier des ventes aux enchères publiques, tel que je le pratique avec la maison Agut, c'est de pouvoir transmettre au plus grand nombre, avec une exposition publique qui précède la vente systématiquement, auquel tout le monde est bienvenu. Et ça, c'est assez essentiel de l'avoir en tête. On apprend. Et non seulement on apprend à travers une description qui est transmise par des gens passionnés comme moi, mais aussi on peut acquérir et toucher. Et ça, c'est formidable parce qu'en termes d'apprentissage, lorsque vous touchez un objet, vous ressentez les choses de manière tout à fait singulière et vous vous l'appropriez. D'ailleurs, vous pouvez le faire avec la dynamique des enchères.
Vous êtes un formidable compteur parce que cette clé d'antiquité assez cryptique quand même quand vous arrivez avec, eh ben, elle nous semble très familière maintenant que vous nous l'avez décrite. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques autres objets comme ça que vous avez vu passer en vente ou que vous allez faire passer en vente prochainement ou, dont on peut s'approprier l'histoire?
Absolument, avec joie. C'est plus de 2000 objets qui passent chaque année dans mes mains, avec 11 ventes l'année dernière, donc 4 grandes ventes qui rassemblent des pièces de choix qui ont été sélectionnées par les soins de la maison Agutte. Et vous avez notamment 2 grandes spécialités que vous retrouvez au rythme de ces 4 grandes ventes annuelles qui sont respectivement les arcs dits classiques avec le mobilier et les objets d'art plutôt dorés, plutôt Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, et le mobilier bien entendu, et aussi les ventes dites de haute époque que j'affectionne particulièrement qui touchent à l'art médiéval jusqu'à la Renaissance. Et donc là on peut retrouver des pièces qui sont par exemple des émaux, alors imaginez un peu la photographie d'autrefois qui se retrouve être peinte avec une technique très très singulière qu'on appelle l'émail peint, donc du sable posé sur une plaque de cuivre qui va être cuite, qui va assembler les coloris et sortir une image à travers différentes cuissons successives. Cet objet d'art est évidemment techniquement extraordinaire et était réservé aux plus grands. Et cet apanage des plus grands se retrouve aujourd'hui dans nos ventes, parfois, et on peut en faire l'acquisition, bien entendu.
Un émail, concrètement, comment on peut en acheter? Quelles sont les pièces, j'allais dire, d'usage sur lesquelles on peut retrouver des émaux?
Les pièces d'usage sur lesquelles on peut
les
retrouver...
Les objets, je veux
oui,
dire.
Oui, les objets. Alors, vous avez déjà le portrait en soi qui est cet émail peint, qui est une représentation...
Comme on achèterait une peinture ou une sculpture.
Exactement, tout à fait. D'ailleurs, c'est un sujet qui s'accroche à un mur, généralement encadré, et qui a toujours été ainsi considéré comme de l'art pour l'art. Beau parce que c'est véritablement inutile. C'est juste beau en soi et techniquement. Mais vous avez aussi l'émail utilitaire. On a ce qu'on appelle l'émail chanlevé, l'orfèvrerie limousine. Et l'émaillerie limousine en est un bel exemple qui s'est exprimé sur différents siècles. Et vous avez des objets d'usage. Des calices, des pyxides, qui sont des boîtes dans lesquelles on met les hosties consacrées. Vous avez aussi des reliquaires et des colombes eucharistiques. Donc imaginez une colombe, une jolie petite colombe, à l'intérieur de laquelle on vient placer ce qu'on appelle le Saint-Sacrement, c'est-à-dire le pain consacré et qui plane au-dessus de l'autel de manière tout à fait magique et transcendantale. Ce sont des objets qu'on peut acheter évidemment aux enchères chez Agutte.
Alors justement, vous le savez, je pose toujours cette question dans cette séquence. Nous sommes une émission d'investissement. On parle donc argent, placement, rendement. Aujourd'hui, les objets de collection, les objets d'art, ou peut-être le mobilier, puisque vous y faisiez référence, avec lesquels on peut rentrer dans votre univers, Grégoire, il faut regarder en particulier quel type d'objet et quel est le budget auquel on peut commencer, à partir duquel on peut commencer à devenir collectionneur dans ce qui vous concerne.
Excellente question, c'est un marché à deux vitesses. Le marché des ventes aux enchères publiques du mobilier et des objets d'art anciens répond à une logique qui est assez, bicéphale, en cela que vous avez d'une part des objets de très grande qualité qui appartiennent à un faible pourcentage qui, eux, représentent en termes d'investissement une valeur sûre, c'est-à-dire qu'elle a tendance à ne pas se dévaluer dans le temps. Ça représentait une grande somme d'argent pour un commanditaire d'autrefois, ça représente toujours une grande somme d'argent aujourd'hui qui ne se dévalue pas. Prenons pour exemple une pièce telle que la guitare de Marie-Antoinette qui est passée entre mes mains, qui a évidemment, lorsqu'elle a été commandée à ce luthier par la reine, représenté une grande somme d'argent et qui, au moment où elle s'est revendue par nos bons soins, a toujours représenté cette grande somme d'argent, à savoir 60 000 euros, qui a priori ne devrait absolument pas dévaloir. Mais d'une autre phase, d'un autre aspect, nous avons aussi les objets plus ordinaires. Comme je vous le disais, tout ceci est tributaire des modes et des intérieurs. Et donc le mobilier des 17e et 18e siècles est aujourd'hui, dans son ordinaire, dévalué. Comprenez par ordinaire qu'il n'a pas de provenance particulière, comme on en a parlé tout à l'heure, et qu'il n'est pas techniquement remarquable. Il est évident que les biens techniquement remarquables avec une belle provenance se distinguent et sont des placements sûrs entre eux. Le reste, le plus ordinaire dont nous venons de parler, est accessible pour quelques centaines d'euros.
Voilà ce que vous pouviez retenir de l'expertise de Grégoire de Toury, expert en mobilier et en objets d'art de la maison Agutte.